privilège d'avoir un futur docteur en théologie au milieu de nous. Dans la personne de Timothée Léa, je vais l'inviter à s'approcher. On peut profiter encore de son ministère, il est encore avec nous pour quelques mois, et on croit que Dieu a déposé une parole sur son cœur, donc on va lui laisser toute la place.
Bonjour à tous et à toutes.
Dans ce matin, je vous propose de méditer ensemble sur un court passage qui se trouve à la fin du chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Vous voyez, l'Épître aux Romains, c'est une lettre magnifique. Pendant 11 chapitres, Paul nous parle de la grâce de Dieu, de combien Dieu nous a aimés, du fait que nous sommes sauvés par grâce. On ne peut rien faire pour mériter d'être sauvés, on ne peut rien faire pour être sauvés, si ce n'est accueillir cette grâce. Dieu a tout accompli pour nous. Et puis, au chapitre 12 et suivant, Paul nous dit, si vous avez bien compris ce que cela signifie, si vous avez bien saisi cette grâce qui vous est faite, alors maintenant, vous ne pouvez que vous offrir comme un sacrifice de louange envers votre Dieu. Offrir votre vie à Dieu comme un sacrifice de louange. Voilà la réponse qui nous est proposée à la grâce de Dieu. Et ça est développé donc au chapitre 12 et 13 en particulier, où Paul va dire, voilà maintenant, vous avez compris que c'est la grâce qui vous a été faite, mais la vie que vous êtes appelé à mener dans cette société qui ne connaît pas Jésus-Christ. Et Paul va donner quelques conseils, il va dire notamment, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Faites tout pour vivre en paix avec tous les hommes. Si on vous fait du mal, alors faites du bien en retour. Soyez vainqueurs du mal par le bien. Rassemblez à la fin du chapitre 12. Bénissez ceux qui vous persécutent et en premier lieu, il écrit à des chrétiens romains qui sont persécutés parfois par le gouvernement, les autorités, aussi, soyez soumis aux autorités. C'est les autorités-là. Ah oui, et puis, une recommandation très pratique qu'on a tous publié dans notre Bible, au chapitre 13, payez vos impôts. Payez vos impôts, dit l'apôtre Paul, n'ayez de dette envers personne, si c'est une dette d'amour, et puis parmi là-dessus, aime ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé de toute la loi, dit-il, au verset 10 du chapitre 13. Voilà l'attitude qui devrait être celle du disciple de Jésus-Christ dans cette société. Et c'est là qu'arrive le passage auquel je vous invite à méditer ensemble ce matin. Chapitre 13, versets 11 à 14. Faites ceci, c'est-à-dire tout ce que vous avez dit, hein. Faites bien, aime ton prochain, sois soumis aux autorités, etc. Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps vous vivez. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée et le moment où le jour va se lever approche. Alors débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans la nuit, dans les ténèbres, et revêtons-nous de l'armure de lumière. Vivons comme il convient en plein jour. Sans orgie, ni gauderie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous préoccupez pas de satisfaire le désir de l'homme qui fait à lui-même. Le texte qui nous parle de réveil. Souvent, quand on pense au réveil, on pense au grand réveil du passé, aux conversions par milliers, à l'action puissante du Saint-Esprit, aux miracles guérisants, etc. Mais on a envie d'expérimenter la même chose et on dit Seigneur, on doit ton réveil, on a besoin de toi. Et c'est bien de le dire au Seigneur, c'est bien de le dire au Seigneur, on a besoin de ton réveil. C'est une bonne chose de prier, de venir pour cela. Mais là, Paul nous parle d'une autre dimension du réveil. Il nous dit, non pas à ce qu'il y a de l'amour, il est l'heure de sortir de votre sommeil. Il est l'heure de se réveiller. Ce n'est pas Dieu qui doit se réveiller, c'est nous qui devons nous réveiller. Non, il est l'heure de se réveiller. ne sais pas si forcément quelque chose facile à entendre, je ne sais pas comment vous êtes, vous, le matin, lorsque vous entendez le réveil, bien, votre conjoint vous dit, il est l'heure de se réveiller. Vous dites, oh, attends, pas tout de suite, hein. Pas maintenant, pas encore, là, je, un petit peu. C'est pas facile de se réveiller le matin parfois. La parole de Dieu nous dit ce matin, il est l'heure de se réveiller. Alors comment entrer dans le réveil? Comment se réveiller? Paul utilise ici l'image de quelqu'un qui se réveille le matin dans le texte qu'on a vu. Une image très concrète. Qu'est-ce qu'on fait quand on se réveille le matin? Première chose, c'est du fait, en tout cas, vous et moi, ouvrir les yeux et vous regardez l'heure qu'il est. Vous regardez l'heure qu'il est sur le réveil. Parfois, c'est le réveil matin qui vous a persuadé d'ouvrir les yeux. Vous ouvrez les yeux et vous dites, ah, il est 7h20, il faut que je me réveille. Il est temps de se réveiller. Les premières étapes, ouvrir les yeux et voir l'heure qu'il est. Deuxième étape, on nous parle de ce texte. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réalisé qu'on est en train de se réveiller, ben on se lève. Donc on prend le petit déjeuner, on fait sa toilette. Et on fait aussi quelque chose de très concret en général le matin, on enlève son pyjama, ses habits de nuit, et on met ses habits de jour pour aller travailler, pour aller faire des activités du jour. C'est de ça dont Paul nous parle dans les textes qu'on a lus au verset 12 à 14. Première étape, ouvrir les yeux et réaliser l'heure qu'il est sur l'horloge. Vous savez en quel temps nous sommes, dit Paul. À l'époque, hein, il n'y avait pas de réveil, de radio réveil le matin, quand on se réveillait pour savoir l'heure. Quand Paul a écrit ça, comment on faisait pour savoir qu'il était temps de se lever, regardez le ciel. Et si on voyait une lueur pointée à l'horizon, on savait que le jour allait bientôt se lever, qu'il était temps de se réveiller. Et c'est ce que Paul nous dit ici. La nuit tire à sa fin, le jour est proche. La nuit est avancée, le jour approche, le jour va se lever, voilà l'heure qu'il est sur l'horloge de Dieu. Nous sommes d'un côté encore dans une période d'obscurité, c'est encore la nuit, mais nous savons que la nuit a toujours une fin, et qu'après la nuit arrive le jour va bientôt. Alors oui, nous, nous vivons dans un monde de ténèbres, d'allumer la télévision, d'écouter Gilles Boulot, Laurent de la Housse, qui vous entendra de soi. Et rassurez-vous, lorsque Paul écrit à l'épître aux chrétiens de Rome, il y a 2000 ans, la situation n'était pas tellement mieux qu'aujourd'hui. C'était même, moi, je ne pas faire ma situation aujourd'hui que celle des chrétiens de Rome qui étaient persécutés, qui étaient pour la plupart, pouvant pour une partie en tout cas esclaves, etc. La vie était très dure. Effectivement, déjà l'obscurité pour eux, vous savez encore pour nous. Que ce soit dans la Gazette romaine du 1er siècle ou bien dans l'édition d'aujourd'hui de DNA, les nouvelles sont quand même très bonnes en général. C'est la nuit, notre monde est encore plongé dans l'obscurité. Toutefois, ce que Paul nous rappelle dans ce texte, c'est que la nuit n'est jamais définitive. Après la nuit, vient toujours le jour. Or, ce qui est extraordinaire, ce que la parole de Dieu nous révèle, c'est que la nuit tire à sa fin. C'est la fin de la nuit. Et le jour est tout proche. Nous vivons les derniers temps, la dernière heure de la nuit. Parce que c'est une grande prophétie, ou même de grandes affirmations théologiques. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La nuit tout sa fin, c'était vrai quand Paul l'a écrit en Romain. C'est 2000 ans et c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est dans cette période que notre monde se trouve depuis 2000 ans. Nous sommes dans la dernière heure depuis 2000 ans. Voilà le temps dans lequel nous vivons. Nous vivons à l'époque finale qui a été annoncée par le Nouveau par l'Ancien Testament, pardon, que les prophètes ont annoncé, celle de la venue du Sauveur, celle de la venue du Messie, celle où le Seigneur a remporté la plus extraordinaire des victoires sur le péché, celle où l'Esprit de Dieu a été déversé sur ses enfants, sur son peuple. Voilà l'époque à laquelle nous vivons. Alors certes, nous savons bien que le salut, comme dit Paul, ne s'est pas encore manifesté pleinement. votre mal de dos, difficulté à trouver le mois, des fois bouquer les fins de mois, les soucis familiaux, tout ça, ça nous le rappelle, bien concrètement, on ne bénéficie pas encore concrètement de tout ce qu'implique le salut. On n'est pas encore sur une terre renouvelée, on n'a pas encore un corps renouvelé, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque, nous ne vivons pas encore là où il est possible de voir Dieu faire sa place. Nous n'expérimentons pas encore le salut dans sa plénitude, c'est encore la nuit, autour de nous, notre monde est encore atteint par le péché, le jour du retour de Jésus n'est pas encore là. Toutefois, nous savons, parce que la Bible nous dit que ce jour approche et qu'il est proche. Nous savons que cela montre espérance. Parce que c'est une espérance, et cette espérance s'appuie non pas sur quoi que ce soit, sur ce que nous observons, mais sur ce que Dieu a déjà accompli pour nous en Jésus-Christ. Notre Sauveur est déjà venu. Il a déjà remporté la victoire sur la mort. Il est déjà mort pour le salut de l'humanité. Il est déjà ressuscité. Il a déjà vaincu les puissances et les dominations. Il a déjà envoyé son Saint-Esprit sur son peuple. Et en tant que chrétien, nous sommes appelés à vivre en fixant le regard non pas sur la nuit qui nous environne, mais sur le jour qui vient. Oui, c'est encore la nuit, mais le jour vient. Le jour est tout proche. Voilà notre espérance. Voilà l'espérance fabuleuse que je fais sentir sur nos visages. Voilà ce qui devrait faire notre joie permanente. Est-ce qu'on réalise le privilège que nous avons de vivre à cette époque de notre passage, un jour approche? Si nous avons compris, si nous avons compris ça que le lui qui se sa fin, dit l'apôtre Paul, alors il est grand temps de se réveiller. Le vent qui nous révèle de la parole de Dieu sonne depuis sans interruption depuis 2000 ans pour nous indiquer qu'il est grand temps de sortir de son sommeil. Seigneur, le soleil va bientôt se lever. Il est temps de se réveiller. Dans un monde endormi, plongé dans la nuit, nous sommes appelés à manifester prophétiquement le jour qui vient. Nous devons nous réveiller et ainsi proclamer par nos vies, par nos pratiques, parce que nous sommes que le salut est tout proche. Est-ce que c'est là notre attitude? Est-ce qu'on a cette foi? Est-ce qu'on a cette espérance? Oui, la nuit tira sa fin et le jour est proche. Est-ce que c'est une essence qu'on véhicule? Est-ce que nos contemporains, noyés dans le désespoir, voient cette espérance en nous? Est-ce qu'on peut lire cette espérance incroyable que nous avons en Jésus-Christ? Dans nos visages, dans nos paroles, dans nos témoignages. Avouez que bien souvent, on véhicule plutôt un message plutôt. On est souvent plus prêt à annoncer la dégradation inéluctable de notre monde, la recrudescence du péché, la multiplication des catastrophes, puis c'est bientôt la troisième guerre mondiale, etc. Et puis aussi, nous nous plaignons. C'est toujours mal, mais c'est qui? Nous n'avons pas de plus. À parler de la nuit. Certes, la Bible parle aussi de ça. Les catastrophes en tout genre font partie des signes de la fin. La souffrance n'est pas un sujet que la Bible met de côté. Et vous savez, ceux qui nous entourent, ils n'ont pas besoin de nous pour avoir peur de catastrophes à venir. Notre monde n'a pas besoin de nous pour savoir que tout va mal. Tous ceux qui nous entourent sont bien conscients de vivre dans la nuit sans quelqu'un, je me rappelle toutes les 10 minutes. Nous ne sommes pas appelés à être des témoins de la nuit. Nous sommes appelés à être des témoins du jour qui vient. La fin du monde, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. La nuit va finir. Elle ne durera pas éternellement. Il y a une espérance que le jour vient et se laisse déjà entourer. Jésus est déjà mort et ressuscité. Jésus a déjà remporté la victoire. Le salut est à notre porte. Nous avons un avenir plein d'espérance. Nous avons un avenir lumineux, les amis. Alors, cette réalité-là, nos yeux humains sont bien incapables de la voir. Nos médias sont incapables de l'annoncer. Nos économistes ne peuvent pas le prédire. Nos prévisionnistes ne peuvent pas le calculer. Cette réalité-là, nous ne pouvons la voir que par la foi. réalité-là, nous ne pourrons la découvrir que lorsque nous passons du temps en présence de Dieu. Nous pourrons l'apercevoir que si nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu à travers la lecture de la Bible, parce qu'elle en parle. Cette réalité-là, nous pourrons la vivre quand nous saisirons pleinement ce que Jésus-Christ a accompli pour nous une fois pour toutes à la croix. Cette réalité-là, nous pourrons la transmettre que si nous laissons l'Esprit de Dieu, nous la réaliserons. Mortalité se manifeste dans nos vies. Le chapitre précédent, notre passage, Paul nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, au siècle présent, à l'ère présente, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, ne pensez pas comme la société pense, mais laissez le Saint-Esprit transformer votre façon de voir le monde. Ne laissons pas les médias nous faire croire qu'il n'y a pas d'espérance. Ne laissons pas la société nous embarquer dans sa morosité ambiante. Laissons plutôt le Saint-Esprit influencer nos pensées. Laissons-le transformer notre intelligence afin que nous puissions voir par la foi le jour qui vient. Attendez-vous ce réveil solaire. Le réveil qui est solaire. C'est l'heure. Ouvrez les yeux. Réveille-toi, c'est le matin, je vais retrouver. Il est temps de sortir de votre sommeil. C'est le réveil de la parole de Dieu. Laissons-le revenir au fond de nous. Laissons-le Saint-Esprit nous faire entendre sa voix. Laissons-le nous réveiller. Première étape, ouvrir les yeux et voir l'heure qu'il est sur l'horloge de Dieu. Réaliser qu'il est là. Deuxième étape, se lever, enlever ses pyjamas et revêtir l'amour et l'honneur, nous dit le texte. Voilà ce qu'il nous dit. Nous sommes invités à vivre comme des témoins du jour qui vient. Vivre, lever, aller. C'est pour cela que verset 13, Paul nous demande de nous comporter comme en un jour. Notre monde est dans la nuit, notre vie à nous est celle du jour. Voilà quel est notre rôle dans ce monde sans espérance. Nous sommes appelés à devenir comme des éclairages dans la nuit. Notre vie tout entière est appelée à manifester cette lumière du Christ dans un monde de ténèbres. Nos actions, nos paroles, tout ce que nous sommes doivent être comme le grand panneau lumineux qui dit « Regardez, le jour approche !» Avant de revêtir notre armure de lumière, nous devons nous débarrasser de notre pyjama. C'est la fin de la nuit, dit Paul. Le jour va se lever. Le texte dit débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Oui. Débarrassons-nous de nos habits de nuit. Enlevons notre pyjama. Et l'apôtre Paul mentionne quelques exemples de pompes qui se font en général dans la nuit. Il dit envie, beuverie, ébauche, immoralité. Il y a des choses qui se font en général la nuit. Des choses de ténèbres, mais aussi jalousie, querelle, choses qu'on fait en général de manière assez cachée, dans l'ombre. C'est caractéristique de la nuit. Le verset 14, Paul montre que ces œuvres de ténèbres sont caractéristiques de l'homme charnel. C'est-à-dire, l'homme sans Christ. L'homme qui n'a pas laissé l'Esprit de Dieu renouveler son être en tout. L'homme qui se laisse contrôler par ses désirs, par ses pulsions. C'est là l'homme endormi. Qui se préoccupe de satisfaire les désirs que son être pécheur le pousse à faire. C'est l'être sans Christ qui va se manipuler par ses pulsions, sans se poser de questions sur ce qui est bien ou mal. C'est l'homme moderne qui se croit libre, alors qu'en fait il est l'esclave de ses désirs, de son péché. Je fais ce que je veux sans me poser de questions, sans regarder les infos pour voir cela. Alors cette attitude, c'est celle de l'homme endormi, l'homme de la nuit. Et comme nous dit, nous qui sommes en Christ, nous nous sommes invités à nous réveiller, nous ne sommes pas appelés à vivre comme des hommes de la nuit ou des femmes de la nuit. Nous sommes invités à nous débarrasser de nos pyjamas parce que le matin vient, il est temps de se lever. Il est temps de ne plus laisser nos désirs insatisfaits nous manipuler. Il est temps de ne plus laisser la télé et l'internet nous rendre complètement avachis, poussés dans notre canapé, sans pouvoir encore émettre une seule pensée cohérente si ce n'est plus de sucre. Il est temps de ne plus laisser la société de consommation nous emmener vers les hypermarchés pour acheter toujours plus grand, toujours plus. On sait quoi. Mes amis, il est temps de se débarrasser de notre pyjama. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a libérés de l'esclavage du péché. Rien. Ce n'est pas pour que nous y retournions. Il a payé de sa vie notre libération. Et pour continuer, on nous donne une piste très concrète pour nous débarrasser du péché, pour vivre libre en Jésus. Il donne cette indication et lui dit : enlevez votre pyjama, vous avez des ténèbres, des parcelles, tout ça, mais revêtez l'armure de lumière. C'est en partant au combat que nous pourrons mieux lutter contre le péché. C'est en faisant le bien que nous apprendrons à ne plus faire le mal. C'est en aimant que nous apprendrons à vaincre la haine. C'est dans l'action que nous pourrons lutter contre le sommeil. Parce que vous avez bien remarqué, si vous êtes fatigué, si vous voulez rester éveillé, ce n'est pas en vous allongeant que vous y arriverez, c'est en se mettant à l'action. Paul nous invite donc à remplacer notre pyjama par une armure de lumière. Les habits du croyant ne sont pas des vêtements confortables ou des baskets, mais bien des vêtements pour le combat. La vie chrétienne n'est pas de tout repos. La vie de l'esprit n'est pas une vie tranquille. J'ai encore remarqué que l'armure qu'on va revêtir, c'est une armure de lumière. Il ne s'agit pas de lutter contre quelque chose, mais de lutter pour la lumière. Dans la nuit environnante, nous devons proclamer que le jour vient en manifestant la lumière que le Christ nous donne par son esprit. Quelques versets plus haut, Paul avait déjà invité ses lecteurs à un tel combat. Il avait déjà employé cette terminologie du combat. En Romains 12, verset 21, c'est un verset que je trouve extraordinaire. Paul dit : ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. La parole de Dieu ne nous invite pas seulement à ne pas faire le mal, elle nous invite à être vainqueur du mal par le bien. Et ça, ça s'en fout. En tant que croyant, on n'est pas appelé à se cloîtrer dans notre bureau en s'y défendant et en tant que ça passe. Nous sommes appelés à partir au combat face au mal environnement. Et nos armes ne sont pas des kalachnikovs, mais des mitraillettes, mais la bénédiction, l'hospitalité, l'amour du prophète. Prenez nos armes. Nous sommes invités à devenir des pratiquants acharnés du bien. Alors c'est vrai, un tel combat n'est pas sans risque, l'ennemi est puissant, il peut parfois nous faire croire que le bien ne pourra de toute façon jamais l'emporter. Mais la parole de Dieu nous l'assure, alors ce n'est pas vrai. C'est en pratiquant le bien que l'on devient vainqueur du mal. Certains diront que c'est un peu utopique tout cela. C'est un peu l'histoire de bien et de mal, c'est un peu le compte de fait. Mais dans la réalité, c'est bien différent quand même. Pourtant, on a des exemples concrets qui montrent que le bien peut vaincre le mal. Pensez par exemple au pasteur Martin Luther King, on a commémoré 50 ans de son assassinat cette semaine. Voilà un homme dont le combat n'a pas été vain. Voilà un homme qui a contribué à faire tomber des barrières de ségrégation entre les noirs et les blancs dans la société dans laquelle il vivait. Et pourtant, Martin Luther King n'a pas pris les armes, n'a pas alimenté la haine, et dans son combat pour la justice, il a fait ce choix d'aimer son ami plutôt que d'aimer à haïr. Il disait cela : l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Dans ça, on le sait, le combat de Martin Luther King lui a coûté la vie. Il n'est pas mort en vain, il fut un artisan de paix qui contribuait à faire mesure injuste de la ségrégation, pour vaincre le mal par le bien, c'est pas une utopie. On a des exemples concrets. Martin Luther King, alors c'est un exemple avec ses défauts, on le sait. Mais cet exemple peut s'appuyer sur un exemple encore plus grandiose, encore plus définitif, ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Et ce mal, notre Créateur a choisi de répondre par l'amour. Notre Dieu a choisi de régler les problèmes du mal en faisant le bien. Alors que nous méritons la mort éternelle, l'enfer loin de Dieu, notre Seigneur a choisi de mettre les pieds sur terre. Il a choisi de donner ce qu'il avait rejeté. Il a choisi de donner ce qu'il a maîtrisé, ce qu'il a insulté. Il n'a pas utilisé sa force infinie. Il aurait pu faire pour réduire le monde à néant, réduire le mal à néant. À l'inverse, il nous a aimés jusqu'au bout. Il s'est laissé arrêter, il s'est laissé mettre à mort. Et c'est là, sur cette croix, dans la faiblesse la plus totale, qu'il a remporté la plus incroyable des victoires. Oui, notre Dieu a vaincu le mal par le bien. Il a tout accompli. Il a réglé le problème une fois pour toutes et il l'a fait en manifestant le plus bel acte d'amour qui soit. À la croix, le mal a été vaincu par le bien. C'est une réalité, une fois pour toutes. Est-ce que nous serons des ceux qui marchent dans les traces de leur sauveur? Que nous avons réalisé pleinement cela, que Dieu a accompli pour nous, si c'est le cas, nous avons compris la force de ce que ça représente, alors nous pouvons que ce soit notre vote. Est-ce que nous serons ces combattants du bien? Est-ce que nous serons de ceux qui proclament la victoire du bien sur le mal acquise à la croix? Est-ce que nous serons de ceux qui ont revêtu l'armure de lumière qui nous est proposée? On peut le dire, hein? Que la parole de Dieu nous permet de partir aussi. Dans nos relations avec nos chrétiens, nous sommes appelés à apporter la lumière dans ce monde en rendant le mal par le bien, en étant un citoyen exemplaire, en aimant notre prochain. Dans la réalité, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je suis assez loin du compte. Comment donc pouvons-nous relever le défi qui nous est proposé? Il me semble que les derniers versets qu'on a lus nous permettent d'entrevoir une solution. Notre Paul nous dit de revêtir le Seigneur Jésus-Christ. C'est une image, revêtir le Seigneur Jésus-Christ. C'est une belle image. Tout est dit, tout est résumé. Voilà la caractéristique du croyant réveillé. Il a revêtu Christ. Jésus-Christ est visible à travers lui, il agit comme Christ, il pense comme Christ, il respire Christ, il vit pour Christ, il peut dire pour moi la vie c'est le Christ, comme Paul l'a dit. Alors, je ne dis pas, vous comprenez, de ce que c'est que c'est le sol, de mettre une pose et des sandales. Hein. Il ne s'agit pas d'un déguisement pour être revêtu sur le Christ. Revêtu sur le Christ, c'est laisser son esprit prendre toute sa place dans notre vie, c'est vivre Christ au quotidien en toutes choses. De se rappeler à chaque instant que l'Esprit du Christ habite en nous, c'est Dieu qui peut faire de grandes choses à travers nous, c'est nous laisser envahir par sa paix, sa joie, son amour, son espérance, et se laisser transformer notre manière de penser par la pensée du Christ. Voilà comment nous pourrons mettre ces éclaireurs dans la nuit, voilà comment nous pourrons porter ce message d'espérance, voilà comment nous pourrons faire entrevoir le jour qui vient si nous plaçons Christ au cœur de notre vie. Lui qui a introduit par sa venue sur terre la dernière heure de la nuit. En méditant sur son œuvre, prenons du temps au quotidien là-dessus, en méditant sur ce que Christ a accompli pour nous, lisons, relisons la parole de Dieu qui est toute entière centrée sur Christ. Passons du temps avec lui dans la prière, laissons-le nous imprégner de son caractère, de sa vie, de sa personne, de son être, et son esprit saint. Lorsque nous serons au travail, la maison, la relation, partout où nous serons, posons-nous cette question. Est-ce que j'ai emmené Christ avec moi? Tous les jours de notre vie, décidons de revêtir Christ.
porteur, Dieu est porteur. Demain matin, vous entendrez le réveil sonner. Je pense que la voix de l'homme travaillé demain, vous verrez bien qu'il est. Alors pensez également à vous rappeler de l'heure qu'il est sur l'horloge du jour. Lorsque vous vous réveillerez demain, après-demain et encore après-demain, les tracas du quotidien commenceront à refaire surface après les bourrages de la nuit. Dites au Saint-Esprit qui vient en vous, qui va prendre toute sa place. Viens renouveler mes pensées. Je ne veux pas penser comme le monde pense, mais comme ta parole, comme tu penses, comme tu veux renouveler mes pensées. Lorsque vous enlèverez votre pyjama pour revêtir vos habits du jour, pensez aussi à revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Dites aujourd'hui son nom de Dieu. Pas seulement mettre les habits de jour, mais de revêtir Christ. Dans ce que j'ai à faire, dans ce que je vais dire, dans les rencontres que j'ai à avoir, je veux que tu sois tourné pour toi, Seigneur. Je ne veux pas vivre dans la nuit. Je veux vivre comme un témoin du jour qui vient. Parce que c'est ça la vie. C'est ça la vraie vie que tu as pour ta vie pour nous. Et on va prier ensemble et je vous proposerai peut-être de faire quelque chose de concret pour répondre à la parole de Dieu. C'est bien de manifester par son corps aussi. Si vous êtes en accord avec ce que dit la Bible ce matin et que vous entendez la parole de Dieu nous rappeler qu'il est l'heure de se réveiller. Seigneur, oui, je veux saisir cette parole et entendre ton appel qui me dit qu'il est temps de se réveiller. Je veux dire oui, je veux me lever. Je veux dire oui, je veux me lever pour toi, besoin. Je demande pardon pour tout ce qui est de la nuit, qui est encore en moi, je veux dépendre de cette chose, je veux me débarrasser de tout ce qui est de la nuit. Je sais, je veux revêtir ta lumière, ton armure de lumière, je veux te revêtir tout ce qui est par ton sacrifice que tu m'as fait ce matin. Et si vous voulez dire oui à la parole de Dieu, je vais simplement à vous lever à votre place et on va prier ensemble maintenant. Seigneur notre Dieu, tu me rappelles par ta parole ce matin que le jour est proche, la nuit tire à sa fin et qu'il est grand temps pour nous de se réveiller, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Tout ce qui est encore de la nuit en nous, tout ce qui est encore de notre ancienne vie, tout ce qui est encore du péché, Seigneur, et nous voulons mettre en déposer cela à tes pieds. Nous voulons nous débarrasser de ce qui est de la nuit, de ce qui est de tout en moi, Seigneur. Nous te disons pardon, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous voulons nous revêtir maintenant cette armure de lumière, nous voulons nous lever pour toi, Seigneur. Nous voulons être ce témoin du jour dans ce monde qui a tellement besoin de voir ta lumière, Seigneur. Nous voulons être ce témoin de ton amour, nous voulons être ce témoin du bien, Seigneur, de ce que tu as accompli pour nous à la croix. Seigneur, fais de nous ce témoin, le témoin de ton lumière, Seigneur. Revenons de ta présence, revenons de toi, Jésus-Christ. Nous sommes là devant toi, Seigneur, et tu vois. Notre décision, tu vois notre désir, être ce témoin du jour. Aide-nous à nous en souvenir demain et encore après-demain et encore après-demain et tous les jours de notre vie jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Nous voulons croire, Seigneur, que le jour est bientôt. Et nous voulons être ce témoin du jour pour toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.